Viennent ensuite dans la partie ouest, en descendant du nord au sud, les hommes et les jeunes gens, invités, fils, voisins, coopérateurs de l'élevage, et dans les temps anciens, les serviteurs et les pauvres, qui se tenaient à l'extrême sud-ouest, près de la porte. À l'est, au contraire, se tient la famille, donc à droite de l'entrée, le maître de maison, quand il y a des hôtes, l'épouse, la fille aînée, là où les brus, les enfants en bas âge, et enfin, le cas échéant, les femmes du voisinage. Un ordre tout à fait similaire à celui des personnes est observé aussi pour les objets. C'est ainsi que l'on trouve à gauche, adossés ou accrochés au treillis mural, les coffres contenant l'argent, les bijoux et les vêtements, ceux des jours de fête et ceux de tous les jours, les armes du maître, arc, flèche, fusil, la selle et le harnais de son cheval préféré, et enfin près de la porte, l'outre de lait de jument, l'érac, préparé pour la fermentation. À l'est, à droite, du côté de la famille et des femmes, on trouve le lit conjugal, les sacs de provisions, les ustensiles de cuisine et de ménage, la selle du cheval de la maîtresse de maison, les quartiers de viande mis à sécher, les outres de beurre et de fromage, etc. Les lits sont toujours disposés le long du mur, la tête au nord, coin d'honneur. Si par la suite de l'absence d'un des membres de la famille, un lit se trouve inoccupé le soir, on y dépose un objet à pointe ou à lame de fer, autrefois une épée, maintenant un couteau, une hache ou des ciseaux, également orienté vers le nord. Le but de cette pratique, héritée du chamanisme, en vigueur encore aux côtés du bouddhisme, est d'empêcher les mauvais esprits d'occuper le lit vide. Quelques tabourets, coussins, tables basses achèvent d'assurer le confort. Il est des yourtes modernes, pourvues de l'électricité et même du téléphone. Ce n'est guère que pour le repas du soir. Dans la journée, on se contente de quelques bols d'érac, donc le lait de jument, que la famille est au grand complet, avec amis et connaissances, et se réunit dans la yourte. On observe alors à quel point l'acte sacré du repas prolonge la valeur symbolique du partage de l'espace, de l'emplacement et de l'attitude de chacun. Les hommes, par exemple, passent toujours par la gauche, l'ouest, pour aller présenter au chef de famille, qui se trouve au nord, une prise de tabac ou une tasse d'érac. Après quoi, ils s'assoient, car rester debout marquerait autant de défiance que de pénétrer dans la yourte avec ses armes. Seuls les hôtes les plus vulnérables peuvent adopter la position assise dite « entailleur ». Les autres s'assoient sur une jambe pliée au sol et l'autre restant en position oblique, le genou levé du côté de la porte pour faire barrière aux mauvais esprits. Personne, en tout cas, n'étend les jambes vers le nord, place d'honneur, ni vers le centre, place du feu, car montrer ses semelles est tout à fait malséant. Des règles de même nature commandent les façons de saluer ou de donner ou de recevoir. En voici quelques exemples de ce qui se fait. Accueillir et accompagner son hôte jusqu'à la porte de l'enclos, et pas seulement jusqu'à la porte de la yourte. Tout offrir et recevoir des deux mains, couvertes par le bas des manches, ou de la main droite soutenue par la gauche, à hauteur du poignet ou du coude. Quand on écoute quelqu'un joindre les mains en croix, paume contre paume, la main droite dessus, les doigts repliés sur le dos de l'autre main et les pouces croisés. Quand on prend congé, faire ce même geste, mais en élevant les mains à hauteur du cœur ou du front, en s'inclinant légèrement. En revanche, voici un échantillonnage de ce qui ne se fait pas. Entrer dans la yourte avec son fouet ou son bâton, comme si l'on avait affaire à des chiens. Montrer du doigt. Refuser un plat et surtout une boisson. Celui qui refuse de boire a forcément quelque chose à cacher. Porter un vêtement sur les épaules sans enfiler les manches. Que sont devenus chez les Mongols citadins ces us et coutumes liés à la yourte et la yourte elle-même ? Bien des villes comportent encore à l'heure actuelle leur quartier de yourte. Autrefois groupées autour d'un monastère, elles le sont maintenant autour d'une coopérative d'élevage ou d'une exploitation minière, et une adaptation judicieuse a permis de caser dans la yourte traditionnelle l'essentiel du mobilier moderne. Mais quand les habitants d'Oulan Bator, la capitale, se virent offrir vers les années 50 d'habiter des maisons de briques ou des immeubles de béton partagés en appartements, Ils furent, dit-on, très décontenancés par les espaces carrés. Comment transporter, dans une HLM, l'ordonnance d'une yourte ronde, avec son foyer toujours au centre, sa porte toujours au sud, l'air et la lumière tombant du sommet de la coupole, etc. Certains acceptèrent leur nouveau logique à condition de conserver, aux abords de la capitale, la yourte de famille pour s'y réfugier lors des grands froids. On prétendait en 1983 qu'il y avait encore dans les faubourgs d'Oulan-Bator 30 000 yourtes serrées derrière leurs palissades et quasi invisibles des touristes. Combien en restera-t-il en l'an 2000 ? La yourte intime et chaude, conviviale et accueillante, deviendra-t-elle le privilège des seuls nomades restés en marge de l'urbanisation ? C'est la vielle cheval que vous venez d'entendre, Morin Hur, cet instrument de musique très particulier qui a, c'est comme une sorte de mandoline avec au bout du manche une tête de cheval magnifique, le cheval Mor, le seigneur de la steppe mongole. Alors de tout ce que vient de vous faire découvrir Jacqueline Thévenet, de la vie traditionnelle, de l'image de la société reflétée par cette vie traditionnelle au cœur de la yourte, dans le foyer de la vie de tous les jours des Mongols, eh bien il y a plein de choses que par chance j'ai pu un petit peu expérimenter. Un petit peu. Je vous le disais, nous étions accueillis chaque jour dans une yourte pendant les deux premières semaines, accueillis pour manger, alors que nos hôtes se retiraient parce que nous étions un groupe d'une dizaine de personnes et que nous ne pouvions nous rajouter aux habitants habituels de la yourte. Donc ils nous cédaient la place dans la yourte pour que nous puissions y cuisiner nos repas, y prendre nos repas, puis ensuite nous nous retirions pour qu'ils puissent à leur tour prendre leur repas. Donc pendant ces 15 premiers jours, un petit peu une sensation étrange de se dire mais comment les contacts vont se faire, parce que quand nous rentrons, ils sortent, et quand ils rentrent, nous sortons. L'impression de ne jamais très bien comprendre ce qui allait se passer, des regards furtifs, des gestes furtifs, mais pas vraiment très bien compris ce qui se passait. Et puis par chance, cette troisième semaine, où cette fois-ci il n'y avait plus le bus, le vieux bus russe qui transportait nos habits, il n'y avait plus Erdene et Oyuz pour nous faire à manger, mais nous étions quatre comme ça à nous transporter dans la steppe au rythme très rapide d'un retour pour ramener les chevaux au campement de départ de Bolto dans sa famille. Et puis le besoin, l'absolue nécessité d'être accueillis avec hospitalité, l'hospitalité riche des Mongols dans les campements, parce que nous dépendions d'eux pour nous nourrir, même si parfois, en tout cas au tout début, dans les premiers jours, nous pouvions amener un petit tanka à notre tour sur la table basse de la yourte, mais souvent nous dépendions d'eux complètement. Et alors à ce moment-là, toute une autre découverte. Mais déjà avant, quand même appris ces gestes dont nous parle Jacqueline Thévenet, le geste qui consiste à ne jamais prendre quelque chose d'une seule main, comme nous en avons furieusement l'habitude sous nos latitudes, mais soit de le prendre des deux mains, en cachant les mains avec les manches du dhil, ce vêtement, ce grand manteau que portent hommes et femmes en Mongolie. Alors ça, je crois que pas beaucoup d'entre nous ont pensé à le faire régulièrement. Je ne suis pas sûre qu'au début on ait très bien compris cela, c'est que petit à petit qu'on le comprendra. Mais en tout cas, le geste, donc soit les deux mains, soit saisir son coude avec sa main gauche et avancer la main droite, ça, tout le monde l'a très vite saisi, ou Georges s'est chargé de nous l'expliquer très rapidement. Donc ça, au moins, on respecte vite. La position dont nous parle Jacqueline Thévenet de répartition dans la yourte, ça non plus au début on ne le comprend pas très vite, simplement qu'on constate qu'il y a une place qui nous est presque toujours réservée quand on est accueilli dans la tente. C'est vrai que la place d'honneur au nord nous est souvent réservée, la famille se mettant à l'est, à droite de la porte d'entrée, et nous occupons le nord et l'ouest qui sont normalement réservés aux hommes. Donc les places d'honneur, quant aux positions de nos jambes, eh bien on s'assied comme on a l'habitude de s'asseoir par terre chez nous, c'est-à-dire en tailleur. C'est en lisant Jacqueline Thévenet que je vois que c'est les autres vénérables qui peuvent se tenir dans cette position-là. Je ne crois pas que nous n'ayons eu très conscience de cet honneur que nous avions de pouvoir nous asseoir de cette façon-là. Parfois, nous arrivait plutôt d'essayer d'imiter leur position, mais qui, parfois, pour nos jambes fatiguées de cavalier après de quelques heures passées sur nos petits chevaux, était difficile. On était très tentés d'étendre nos jambes et montrer sa semelle ne se fait pas. Et ça, c'est Bolto et André qui se sont chargés de nous le faire comprendre. Il ne faut pas mettre nos pieds face au foyer. Ça, c'est eux qui nous l'ont appris et nous avons assez vite compris qu'il fallait le respecter, sans même toujours très bien comprendre de quoi il s'agissait. Le fait d'être assis et de ne pas rester debout, parce que c'est un geste de domination ou d'intention violente, ça non plus, je crois que nous ne l'avons pas très bien compris tout de suite. On s'asseyait parce que c'était le geste d'accueil que faisaient nos hôtes, donc on s'asseyait. Mais il est arrivé, à force de s'installer et d'entrer en contact avec les familles qui nous accueillaient, d'avoir envie de papoter comme on papote chez nous, donc de rester debout. Et Bolto et André insistaient souvent beaucoup pour que nous nous asseyions et on ne comprenait pas toujours très bien. Et un jour, eh bien, en cours de voyage, j'ai ouvert le guide de Jacqueline Thévenet et j'ai lu cela et cela m'a permis de donner un coup de coude à mon ami Georges et de lui dire « Mais assieds-toi, c'est parce qu'il ne faut pas être debout. » Mais c'est vrai que c'est pas très évident de comprendre qu'il faut s'asseoir et ne pas rester debout lorsque personne ne vous l'explique. Quant à la place des hommes et des femmes dans la yourte, eh bien, ça on ne l'a pas très bien saisi puisque souvent la famille occupait la place à droite pour nous accueillir et puis nous avions tout le restant de l'attente comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc cette répartition homme-femme dans la yourte, nous-mêmes, nous ne l'avons pas vraiment expérimentée. Par contre, ce que nous avons beaucoup expérimenté, c'est la place des femmes elles-mêmes. Donc les tâches, elles font les tâches dans la yourte, je vous en parlerai tout de suite, mais c'est elles qui sont au feu, c'est elles qui se font à manger, et c'est elles qui nous accueillent, qui nous offrent l'érax, le lait de jument, dès que nous arrivons. Premier geste, on s'assied et on nous offre le lait de jument à n'importe quel visiteur qui arrive, à n'importe quel moment du jour, qu'il soit connu ou inconnu, il entre de lui-même. L'hôte entre derrière lui et lui offre, la femme lui offre, offre à tout le monde le bol d'érac. Le seuil sacré, et oui, le seuil sacré, il ne s'agit pas de marcher sur le seuil. Je crois que certains d'entre nous avons fait ce pas malheureux. Jamais personne n'est venu nous dire oh, « Attention, on va te condamner à mort parce que tu as marché sur le seuil », mais on nous a vite expliqué qu'il ne fallait pas marcher sur le seuil. Georges, qui en était à son troisième voyage, connaissait déjà cette tradition et nous a initiés. Heureusement qu'il y a parfois la tradition qui se transporte de bouche à bouche avec ceux qui ont déjà vécu certains événements. Les objets frappants, eh bien, les lits, je vous le disais tout à l'heure, oui, les lits de fer de part et d'autre de l'entrée, de la porte d'entrée de la yourte, qu'on retrouvera toujours les mêmes, la disposition des meubles vraiment tout le temps la même. Et certains objets magnifiques, comme par exemple, tout à gauche en entrant, à l'ouest, tout près de la porte, l'outre qui contient l'érac, une outre immense qui fait la hauteur du treillis circulaire, c'est-à-dire presque 1,50 m, avec un montant de bois souvent sculpté, décoré et des attaches, donc l'outre tout en cuir et dans lequel on bat régulièrement le lait de jument pour qu'il fermente normalement et avec une louche pour puiser et remplir un pot qui ensuite sert à remplir les bols des visiteurs. Donc quelques objets vraiment magnifiques. Et ce foyer qui est à la fois très rudimentaire, mais en même temps extrêmement fonctionnel, qui chauffe très très bien. Les rares fois où nous avons l'impression qu'il faisait un petit peu frisquet, c'est vrai que dans la yourte, il faisait très vite une chaleur délicieuse, et au contraire, l'air circulait très librement, comme vous l'expliquait Jacqueline Thévenet, dans les moments où il faisait très chaud. Alors, qu'en est-il des yourtes lorsque l'on se trouve dans la ville ? Eh bien, à Oulan-Bator, puisque c'est cette ville-là surtout que j'ai vue en ce qui me concerne, eh bien c'est vrai qu'il y a d'immenses quartiers qui sont faits de yourtes entourées de palissades. Mais là, je dois avouer que j'ai plutôt eu la sensation non pas de résidence pour l'hiver lorsqu'il fait très froid, tel que nous en parle avec plein d'humour Jacqueline Thévenet, mais plutôt d'immenses quartiers qui ressemblent aux bidonvilles de certaines autres villes. C'est sur les collines, dès qu'il pleut, c'est la boue totale. Donc ça ne m'a pas laissé l'impression vraiment de quartier de vie très agréable. On se dit plutôt que c'est terrible, qu'il a fallu arrêter la yourte, qu'elle ne a plus jamais monté et démonté, qu'il a fallu l'enfermer derrière ses barricades pour créer un petit espace vital à la famille. Non, tout ça donne une impression terrible de sédentarisation forcée. Et quand Jacqueline Thévenet se demande combien il en restera en l'an 2000, bien je ne sais pas s'il y a aujourd'hui encore 30 000 yourtes à Oulan-Bator. Je dirais plutôt non, mais c'est très difficile de l'évaluer. Je crois qu'on a beaucoup remplacé les quartiers de yourtes par d'immenses quartiers de HLM. Mais par contre, que la yourte intime et chaude, conviviale, accueillante, comme elle le dit, est le privilège des seuls nomades restés en marge de l'urbanisation. Je crois que pour l'instant, c'est plutôt l'urbanisation qui est en marge des nomades, encore et heureusement, parce que l'immense majorité de la population vit sous leur yourte, mais dans la steppe ou dans la nature, et ne sont pas encore enfermés dans ces villes épouvantables comme peut l'être Oulan-Bator, la ville aux mille puanteurs, comme diraient certains, mais qui surtout frappe par sa rigidité, parce que ces HLM, c'est bien beau, c'est des immeubles comme chez nous de 8, 6, 8, 10 étages. Ils ont l'air très déglingués, ils ont été construits par les soviétiques dans les années 50. Alors, bien sûr, on a offert des appartements à ces gens qui, de l'intérieur, sont relativement agréables. Tchak nous a conviés dans son appartement. Il y a 2 chambres à coucher, un salon, une cuisine, une salle de bain. Tout ça est très agréable. La montée pour arriver jusqu'à l'appartement, c'est un petit peu autre chose. Effectivement, drôle d'odeur, des détritus un petit peu partout. Les immeubles, les murs qui se lézardent à l'extérieur, les gamins qui se chamaillent dans la rue parce qu'il n'y a que le béton pour les entourer et pas du tout les animaux et la steppe pour les accueillir. Mais bon, on sait par ailleurs que quand même, le système communiste en vigueur jusqu'au début des années 90 a fait qu'on a donné ces appartements. Il n'y avait pas de loyer à payer. Ils n'ont toujours pas de loyer à payer. Ils ne payaient que l'électricité ou le téléphone s'ils l'avaient. Et même aujourd'hui, lorsqu'on parle de privatiser tout cela, eh bien, semble-t-il qu'on se demande encore quel est le loyer qu'on va faire payer. On ne sait pas très bien. Mais pour l'instant, tout est encore gratuit. Alors, est-ce que tous les nomades rêvent d'aller habiter dans ces 4 murs aux angles droits, contrairement à la rondeur de leur yourte? Je ne pense pas, puisque tant de gens vivent encore dans la steppe et c'est pas demain que le nomade sera un marginal de la ville, du moins, évidemment, c'est un immense souhait que l'on peut faire. Dernière petite remarque, quant à moi, si je me suis fait offrir la blague à tabac du maître de maison pour respirer et son tabac qu'il chic quant à lui, geste éminent d'accueil. Eh bien, je n'ai jamais vu, comme dit Jacqueline Thévenet, ni de téléphone, ni d'électricité dans la yourte, mais parfois la radio avec Radio Oulan-Bator. Thank you. La vie à cheval, c'est pas toujours très rigolo, comme vous l'entendez en ce moment. C'est parfois un petit peu monotone, mais la voix des chants, c'est magnifique et c'est ce que j'ai très souvent entendu. Ces chansons très présentes, que nous soyons en train de chevaucher dans la steppe ou le soir avec un bol d'érac et non pas au coin du feu, puisqu'on ne fait pas de feu dans la steppe mongole. Il n'y a pas de quoi brûler quoi que ce soit. On utilise les crottes de cheval ou des autres animaux pour cuisiner essentiellement et se chauffer dans le fameux foyer qui est au cœur de la yourte. Mais il n'y a pas de quoi de faire un feu de joie pour papoter, mais ça n'empêche pas les gens de papoter jusque tard et de chanter sous les étoiles comme nous l'ont fait pour nous, Bolto et André, très souvent au cours de ce magnifique périple dans la steppe mongole. Alors il est un dernier chapitre que je voulais aborder avec vous, c'est comment on repère la place des femmes dans la vie familiale de la famille nomade mongole. En l'occurrence, eh bien, les traditions familiales, elles sont difficiles à comprendre, je vous le disais, en si peu de temps. 3 semaines, c'est rien. Et la vie des nomades se passe à un rythme très lent et très régulier. Et certains événements qui peuvent jalonner la vie de tous les jours, ces traditions familiales, comme la naissance, le choix du nom, comme par exemple la première coupe des cheveux du petit garçon de la petite fille, qui semble être un événement important, ou bien la première fois qu'on lui offre un nouveau vêtement, les mariages, etc. Tout ça sont des événements que je n'ai pas vécu parce que ça aurait été un miracle que justement ces événements-là aient lieu durant les 3 semaines où j'étais en Mongolie. En l'occurrence, ce miracle-là, il y en a un autre qui s'est produit et pas celui-là, c'est pas produit. Donc nous avons plutôt suivi le quotidien, le jour à jour de la vie de la famille nomade, mais pas du tout ces traditions, ces familiales particulières. Alors on repère comme ça la place des femmes plutôt à coup d'impression, à coup d'ouverture d'yeux sur ce qu'elles font, les gestes de tous les jours et où on les retrouve tout le temps. Bien sûr, je pourrais vous faire découvrir ces traditions comme le mariage, les naissances, l'accouchement, etc. à travers ce qu'en dit Jacqueline Thévenet. Je me dis peut-être seulement, puisque je n'ai pu l'expérimenter, je me dis qu'il y a quand même un ou deux chapitres qui, peut-être grâce à ce que j'ai un tout petit peu découvert dans ces moments de rencontre, peuvent être comparés. Par exemple, le rôle de la belle-fille dans la famille, ou bien le partage des femmes de travail pardon, entre hommes et femmes dans la famille mongole, et peut-être les vieux. Parce que j'ai rencontré de très belles grand-mères qui m'ont fait grande impression, et peut-être ces trois parties-là, ce n'est pas des cérémonies, ce n'est pas des traditions, mais peut-être comme ça pourrons-nous un tout petit peu comprendre la place des femmes à ce moment-là. Alors je me propose de vous lire un petit passage de justement du rôle de la belle-fille. Pour la jeune mariée, une vie radicalement nouvelle commence. Bien plus que les tâches matérielles, les rapports qu'elle va devoir inaugurer avec sa belle famille, en constituent la part essentielle et la plus délicate. Tant son langage que son comportement doivent exprimer désormais la plus grande réserve et modestie, ni éclat de rire, ni sanglots, de la mesure en toute chose. Les tabous de langage sont les plus lourds. Par respect pour ses beaux-parents, la brune ne prononce jamais leur nom, ni aucune des composantes de ce nom, même s'il s'agit de mots aussi communs et d'usages aussi journaliers que fort ou faire. Elle s'ingénue donc constamment à trouver des mots de substitution, à pratiquer un discours indirect, sous peine de se voir privée de nourriture et ternie de sa réputation. Un tel travestissement de la pensée finit par aboutir à ce que les mongolisants appellent la langue des femmes. Non que les femmes utilisent pour communiquer entre elles un langage secret que les hommes ne comprendraient pas, mais bien plutôt parce qu'elles sont obligées pour s'exprimer de parler autrement que les hommes. En fait, une femme doit surtout savoir écouter. Pour la mettre à l'épreuve, son beau-père ne lui parle qu'en métaphores et en énigmes afin de juger de son degré d'intelligence. S'il veut lui tenir un discours plus direct, il le fait par l'intermédiaire de sa femme. Exercée heureusement dès l'enfance à tous les jeux de langage, traits d'esprit, devinettes, charades, la Bru excelle bientôt dans l'art de découvrir le sens caché des mots, de les décoder, de comprendre, au-delà du prononcé, le suggérer. Son attitude doit refléter la même délicatesse et la même modestie. La peur de l'inceste lui inspire vis-à-vis de son beau-père une réserve extrême. Dans la yourte de ses beaux-parents, elle ne dépasse jamais le pied de leur lit. Sa place au sud-est, d'où elle peut alimenter le feu par la bouche sud, jamais au nord, avec les personnes honorables. Le trépied du foyer, disent les Mongols, symbolisait autrefois très bien cette relation. Le père et la mère étaient respectivement les pieds nord-ouest et nord-est de ce foyer, et la Bru en était le pied sud. Avec sa belle-mère, la mariée entretient une relation plus simple, d'aide soumise, parfois même de la connivence au moment des accouchements. Avec son mari, l'affection certes, mais peu extériorisée, est toujours empreinte de retenue. En parlant de lui, elle ne dira pas « mon époux », mais « notre époux », « notre maître », « le maître de notre foyer ». Ce n'est qu'avec les membres plus jeunes que la Bru pourra se permettre quelques familiarités, par exemple avec le beau-frère, la belle-sœur, les neveux, les nièces. Mais sa situation change du tout au tout quand elle devient mère. Alors enfin, semble-t-il, elle équilibre l'énorme prix que sa belle-famille a dû payer pour se l'attacher. On l'estime davantage à chaque naissance et elle-même prend peu à peu de l'autorité jusqu'au jour où, devenant belle-mère à son tour, elle aura sa revanche complètement. Les relations sexuelles avant et hors mariage sont tolérées, à condition de rester discrètes. Mais la liberté des jeunes pour le choix de leur conjoint reste rare, même dans la société mongole d'aujourd'hui. Peu à peu cependant, les couples préfèrent s'installer chez les parents de la jeune fille ou dans leur voisinage, plutôt qu'auprès de ceux du garçon, marquant ainsi déjà une certaine émancipation. Ce qui reste, et restera sans doute encore longtemps ancré dans les cœurs, c'est le respect des aînés, avec les tabous de langage qui l'inspirent. Alors, qu'en est-il de mon expérience de la ville des belles filles? Peut-être tout simplement, je peux vous parler de ce qu'expérimente, si vous voulez, ce que j'ai vu, ce que j'ai expérimenté de la vie des femmes, tout simplement. Parce que c'est elles qui nous reçoivent dans la yourte, c'est elles qui nous font à manger et on sent qu'elles sont là toujours présentes, effectivement très actives au cœur de la famille qui leur donne ce rôle important dans le foyer, disait Jacqueline Thévenet. On sait que malheureusement, c'est tout simplement une obligation, c'est pas tellement un rôle incroyable auquel elles avaient droit. Mais par contre, bien sûr, il m'a été absolument impossible de deviner ce qui se passait au niveau du langage, ce fameux langage des femmes, cette retenue, ces métaphores, ces devinettes. Tout ça, c'est évidemment exclu de comprendre quoi que ce soit en ce qui me concerne entre les femmes et les hommes au niveau du langage.